Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, le magazine au féminin avec Nathalie Barge. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Au Burundi, au moins deux manifestants ont été tués par les tirs de la police ce jeudi à Bujumbura, où la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a repris de plus belle, malgré la riposte musclée des policiers. D'autres précisions avec Jacques Aristide.
La Croix-Rouge burundaise a confirmé à l'AFP ce bilan de deux morts et fait état de 8 blessés. Ces équipes n'ont toutefois pas eu accès à Musaga en raison de l'intensité des tirs dans ce quartier de la capitale. D'après un porte-parole de l'ONG, laissant entendre que le bilan pourrait être plus élevé. Ailleurs, à Ngagara, des affrontements ont éclaté avec un groupe d'une centaine de contestataires près de l'Assemblée nationale, réunis en session extraordinaire pour la prestation de serment de trois nouveaux ministres. Les policiers déployés en nombre autour du bâtiment ont ouvert le feu. Au moins deux manifestants ont été blessés par balles, dont l'un grièvement touché à la tête et décédé peu après, d'après l'AFP. Sur le front international, la Belgique a averti ce jeudi qu'elle arrêterait son aide directe au Burundi en cas de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Sache aussi que les troubles de ces derniers jours ont forcé plus de 110 000 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, à fuir dans les pays voisins. Mais une fois arrivés en Tanzanie, où bon nombre d'entre eux sont réfugiés, ils sont exposés au choléra. D'après l'UNICEF, la maladie a fait 27 morts parmi les dizaines de milliers de réfugiés burundais dans le nord-ouest de la Tanzanie. Une situation liée à la surpopulation et aux mauvaises conditions sanitaire. Poursuite dans le cadre du génocide rwandais, la Cour fédérale allemande a ordonné qu'un ancien maire rwandais soit rejugé en raison de son rôle actif dans le massacre. Onesphore Rwabukombe a été condamné l'an dernier à 14 ans de prison pour complicité dans le génocide. Il y a maintenant la possibilité d'une condamnation pour participation qui pourrait entraîner une peine à réclusion, à perpétuité, indique l'AFP. L'insurrection de Boko Haram a causé une des pires crises humanitaires d'Afrique. Tel est le constat du Comité international de la Croix-Rouge qui estime que des fonds supplémentaires sont nécessaires afin de porter secours aux victimes. L'organisation insiste sur le besoin d'aide aux victimes de violences sexuelles enlevées par le groupe islamiste. Le CICR critique aussi des associations humanitaires pour leur manque de réactivité. Le président américain Barack Obama reçoit à la Maison Blanche son homologue tunisien Bejikeid Essebsi. La Tunisie souhaite une hausse de l'assistance militaire américaine pour lutter contre la menace djihadiste. Idriss Fall.
C'est la deuxième fois que Barack Obama reçoit Bejikeid Essebsi, qui était déjà venu à la Maison-Blanche en 2011 en tant que premier ministre de la transition. Si les États-Unis et d'autres aident la Tunisie, oui, nous pouvons devenir un modèle, a lancé hier le président tunisien au premier jour de sa visite. Dans sa conférence à l'Institut de paix, il a répété que les Libyens ne se battent pas contre le terrorisme, mais se battent les uns contre les autres. Autrement dit, aidez-nous à affronter les djihadistes. La Maison-Blanche a demandé au Congrès d'approuver en faveur de la Tunisie une enveloppe de 138 millions de dollars, dont 62 millions pour la partie militaire. Washington a déjà annoncé la livraison de 52 véhicules militaires et d'un navire de patrouille à l'armée tunisienne et Tunis doit encore recevoir 4 autres navires américains. Le secrétaire d'État John Kerry, qui s'était rendu en Tunisie en février, a signé hier avec son homologue tunisien un document pour renforcer et étendre le partenariat stratégique entre Washington et Tunis.
11 personnes sont mortes dans de nouvelles violences en Libye. Des sources médicales et des services médicaux cités par l'AFP comptent 10 soldats tués dans des accrochages à Benghazi, contrôlés par les milices islamistes. Par ailleurs, un combattant de la coalition de milices Fajr Libya a été tué aujourd'hui près de Misrata dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Et de son côté, la branche égyptienne du groupe État islamique appelle ses partisans à s'attaquer aux juges. D'après l'AFP, c'est en riposte à la pendaison d'hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques au nom de l'organisation djihadiste. Amnesty International avait qualifié d'injuste leur procès, basé uniquement sur des témoignages d'officiers de police secrète.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au moins 40 rebelles ont été tués ce jeudi dans un raid de l'armée de l'air du régime syrien sur un quartier de la métropole d'Alep, dans le nord de la Syrie. C'est ce que rapporte l'AFP, citant l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG basée à Londres, le bilan pourrait s'alourdir en raison d'un grand nombre de blessés graves. D'autre part, le groupe djihadiste État islamique s'est emparé aujourd'hui de Palmyre, une ville du désert syrien classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. D'après la prise de la prise de Ramadi en Irak il y a 4 jours, cette victoire rend les djihadistes maîtres de la moitié du territoire syrien. On fait le point avec Salwa Jafari.
L'euphorie des combattants de l'État islamique au moment de la prise de Palmyre. Dans le reste du monde, c'est la consternation. C'est la première fois que le groupe s'empare d'une ville directement contrôlée par les forces de Bachar el-Assad, une prise aussi monumentale que les vieilles colonnes qui couronnent le site. 2000 ans d'histoire pour y partir en fumée, sous le regard impuissant de l'humanité. L'UNESCO appelle le monde à réagir, sa présidente tente même de dissuader les assaillants.
Nous pouvons avoir des croyances différentes, nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous devons protéger ces vestiges incroyables de l'histoire humaine.
En Irak, l'organisation s'est livrée à un nettoyage culturel en rasant une partie des vestiges de la Mésopotamie antique. En Libye, plusieurs mausolées ont été détruits par des islamistes extrémistes.
Au Yémen, nouveau raid aujourd'hui contre les positions des rebelles houthis soutenus par l'Iran. De sources concordantes, on apprend que les avions de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont frappé des cibles dans le sud-ouest et le centre du pays. Depuis le 26 mars, la coalition mène une campagne aérienne contre la rébellion chiite pour l'empêcher de prendre le contrôle de l'ensemble du Yémen. Après, elle s'est emparée de la capitale Sanaa et de vastes territoires du nord, du centre et de l'ouest. L'état d'urgence a été décrété dans la zone touristique de Santa Barbara en Californie à la suite d'une fuite de pétrole brut au nord-ouest de Los Angeles. Il s'agit là d'une des pires marées noires qu'ait connue cet état de l'ouest américain depuis 1969. Eddie Sango.
Le gouverneur Jerry Brown a pris cette décision 24 heures après la découverte de cette fuite de pétrole dans une zone touristique à Refugio State Beach. L'état d'urgence permet à la Californie de débloquer ainsi les sommes prévues pour aider à nettoyer les zones polluées. La fuite aurait été causée par la rupture d'un oléoduc. La nappe polluante s'étend maintenant sur 14 km le long de la côte pacifique. La compagnie responsable de l'oléoduc a présenté ses excuses pour les dégâts causés à l'environnement et assuré qu'elle poursuit les opérations de nettoyage 24 heures sur 24. Plusieurs groupes écologistes s'alarment des éventuelles conséquences à long terme de cette marée noire. Selon les dernières estimations des autorités, mercredi après-midi, La fuite a été estimée à environ 400 000 litres, dont 80 000 litres déversés dans l'océan.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a accusé les deux camps dans le conflit ukrainien de violer le cessez-le-feu. Le directeur adjoint de la mission spéciale de contrôle de l'OSCE en Ukraine, Alexandre Huk, a déclaré que l'armée nationale et les rebelles séparatistes ont continué à lancer des attaques, se servant d'armes qui auraient dû être retirés du front. Les belligérants avaient pourtant affirmé le retrait de leur armement lourd, conformément aux accords de Minsk. Sachez aussi que le département américain du Trésor a annoncé aujourd'hui des sanctions contre la ligne aérienne irakienne Al Nasser, accusée d'acheter des avions d'occasion en Europe pour les revendre à l'Iran. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec, et je cède la place à Nathalie Barge dans le magazine au féminin.
Soyez au cœur de l'info.